D'un paquet de 62 aides de café Senseo, le deuxième est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc.
Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Ravi de vous accompagner en ce mercredi 1er mai. Plus de 200 000 manifestants selon la CGT, 121 000 selon les autorités. Les traditionnels défilés du 1er mai se sont déroulés dans un contexte marqué par les conflits internationaux. Illustration à Saint-Étienne, où le socialiste Raphaël Glucksmann a dû fuir le cortège. Des militants pro-Gaza l'ont invectivé et des insultes antisionistes ont fusé. La tête de liste PS pointe la responsabilité de la France insoumise. Un 1er mai marqué aussi par la campagne des élections européennes, le Rassemblement national, archi-favori dans les sondages, donnait un meeting à Perpignan et Jordan Bardella a mis un point d'honneur à ne pas crier victoire trop vite. Dans ce journal également, retour sur la brillante carrière du plus francophile des écrivains américains, Paul Auster, décédé aujourd'hui à 77 ans. L'invité politique d'Europe 1 Nuit, la députée Renaissance, Olga Givernet, sera avec nous pour commenter l'actualité. Et puis en football, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Le score à la mi-temps, 1-0 pour les Allemands.
Europe 1.
Comme tous les 1er mai, des centaines de manifestations étaient organisées partout en France. 121 000 personnes y ont participé, selon les autorités. Et comme tous les 1er mai, c'est une triste habitude, il y a eu des débordements. D'abord à Paris, où 13 agents des forces de l'ordre sont blessés, 45 personnes interpellées. Selon le préfet de police, 600 éléments radicaux étaient présents dans le cortège. Et un incident particulièrement marquant à Saint-Étienne. La tête de liste PS, Raphaël Glucksmann, a dû être exfiltré de la manifestation en raison d'invectives lancées par des manifestants pro-Gaza, Alexis de la Fontaine.
Casse-toi, sioniste, retourne dans ton pays, ce n'est pas ta terre ici. Voilà les insultes lancées par une cinquantaine de militants pro-palestiniens, qualifiés d'antisémites par Raphaël Glucksmann. Le candidat socialiste accuse la France insoumise d'en être responsable.
Ils ont décidé de faire une campagne qui électrisait tout. Ils ont décidé que 80% de leurs tweets à l'AFI sont consacrés à Raphaël Glucksmann et à la liste socialiste place publique. Donc à un moment, ils ont choisi leur adversaire.
En réaction, Jean-Luc Mélenchon a démenti ces accusations et demander des excuses aux socialistes au moment d'arriver dans la manifestation parisienne avant de faire monter la tension dans la foule en injuriant les policiers chargés hier d'auditionner Mathilde Panot dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme.
Si vous acceptez de faire la sale besogne, ne nous demandez pas de sourire. Ça ne nous amuse pas d'avoir à vous répondre dans un commissariat. Pourquoi nous ne faisons pas l'apologie du terrorisme? Et qui dit ça? Un pandore à moitié analphabète? Qui êtes-vous pour nous poser des questions de cet ordre? Vous n'êtes pas nos juges, nous vous méprisons!
Des propos qui s'inscrivent encore une fois dans la stratégie du leader insoumis de se poser en victime du système et maintenant de la police.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, un 1er mai de manifestation mais aussi de campagne pour les élections européennes. Le grand favori des sondages, Jordan Bardella, a dévoilé l'intégralité de la liste Rassemblement National lors d'un meeting organisé à Perpignan. 2000 sympathisants ont fait le déplacement dans cette ville dirigé par le RN. Et même si tous les voyants sont au vert, pas question pour Jordan Bardella d'afficher un excès de confiance, Alexandre Chauveau.
Oui, malgré des sondages très flatteurs, Jordan Bardella joue la prudence.
Rien n'est fait, mes amis. Rien n'est gagné tant que le peuple français n'aura pas rendu sa décision.
Conscient de l'importance de rassembler l'électorat de droite, ne vous dispersez pas, intime-t-il notamment aux électeurs de Reconquête. À la place, Jordan Bardella tente d'imposer un duel avec le macronisme.
Il y a d'un côté l'Europe de Macron, celle de l'écologie punitive, de l'immigration imposée, de la bureaucratie, de la concurrence déloyale et désormais du partage de notre arme nucléaire. De l'autre côté, mes amis, vous pouvez choisir l'Europe des nations, celle des réalités, celle des gens, celle du concret, celle des identités, celle des frontières, du juste échange, du patriotisme économique, de la priorité nationale, de la préférence européenne.
En ce 1er mai, Jordan Bardella convoque la mémoire de Jeanne d'Arc, symbole selon lui de la lutte contre la fatalité. Date également choisie pour dévoiler les 35 noms de la liste du RN pour ces élections européennes, avec, à en croire les sondages, une trentaine de places éligibles.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et la tête de liste Reconquête, Marion Maréchal, a choisi quant à elle de passer ce 1er mai dans les Vosges à Domrémy-la-Pucelle, village natal de Jeanne d'Arc. Le Premier ministre Gabriel Attal a également occupé le terrain. Il était à Beaugency, dans le Loiret, alors que la liste Renaissance est toujours à la peine dans les sondages en vue des européennes autour de 16% et en deuxième position. On en parlera avec l'invité politique d'Europe 1 Nuit. Dans quelques minutes, la députée de la majorité, Olga Givernet.
Europe 1 Nuit, Maëlle Hassani.
Non, Samara n'était pas victime de harcèlement scolaire avant son agression et non, le personnel du collège n'a pas commis d'erreur. C'est ce que dit l'enquête administrative rendue hier sur l'agression de Samara près de son collège à Montpellier début avril. Louise Salé, pour la mère de la collégienne rouée de coups et plongée un temps dans le coma, ses conclusions sont inacceptables.
Oui, ce rapport indique que les équipes du collège ont fait ce qu'il fallait faire en suivant de près la situation de Samara plusieurs mois avant l'agression, puisqu'elle avait été entendue par la vie scolaire sur ses relations conflictuelles avec des camarades, mais aucun phénomène de harcèlement n'avait été identifié. Les inspecteurs rappellent aussi que le professeur principal de l'élève avait averti sa mère le jour de l'agression pour venir la chercher à la sortie du collège, car il avait vu un groupe de jeunes qui attendaient Samara. Mais Assiba Radjou, le maire de l'adolescente, n'a pas pu se rendre devant l'établissement et dit avoir appelé le collège pour garder sa fille, ce que conteste le rapport faute de preuves. Elle était interrogée par Pascal Praud ce matin sur CNews et Europe 1.
On en conclut que j'ai menti, que ma fille elle n'a jamais été harcelée, que voilà, en fait c'est ça les conclusions. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de l'enquête judiciaire pour éclaircir tout ça. Je pensais de base que c'était parce que on m'a demandé mon relevé téléphonique. On aurait pu faire de même au niveau du collège.
Pour les inspecteurs de l'Éducation nationale, le coupable dans cette affaire, c'est surtout le rôle délétère des réseaux sociaux. Mais selon l'avocat de la mère de l'adolescente, Maître Galix, qui s'est exprimé hier, dire qu'il n'y a aucune défaillance de la part du collège, pour la maman de Samara, c'est insupportable.
Louise Salé, spécialiste éducation à la rédaction d'Europe 1. Le gouvernement rétropédale. Les professeurs seront bel et bien payés pour l'ensemble des heures supplémentaires travaillées cette année. Une mesure pour réaliser des économies, communiquée au chef d'établissement lundi, laissait penser le contraire, mais face au tollé, le ministère de l'Éducation revient donc aujourd'hui sur sa décision. Si le Hamas rejette l'offre de trêve à Gaza, il montrerait son peu de considération pour les Palestiniens. Déclaration du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, actuellement en Israël. La réponse du mouvement terroriste est attendue dans les prochaines heures. Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine tente toujours de dissuader l'État hébreu de lancer une offensive de grande ampleur à Rafah, au sud de Gaza. Harvey Weinstein sera de nouveau reconnu coupable. C'est la conviction exprimée par le procureur de Manhattan devant le tribunal de New York, où l'ancien producteur star d'Hollywood comparaît aujourd'hui. C'est la première étape vers un probable nouveau procès. Sa première condamnation pour viol et agression sexuelle en 2020 a été annulée la semaine dernière en raison d'erreurs de procédure. Harvey Weinstein fut la première cible du mouvement MeToo en 2017. De nouvelles manifestations dans les rues de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes protestent contre la loi sur l'influence étrangère, jugée liberticide, et adoptée en deuxième lecture aujourd'hui par le Parlement. Ces rassemblements sont souvent dispersés violemment par les forces de l'ordre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, condamne les violences et exprime sa vive inquiétude. Vous écoutez Europe 1, il est 22h08. En football, c'est un match historique pour le Paris Saint-Germain en ce moment, face au Borussia Dortmund en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et je fais appel au consultant football le plus prestigieux d'Europe 1, Olivier Delacroix. Où en sommes-nous donc dans ce match?
Comme vous y allez, le Paris Saint-Germain est mené 1-0 depuis la 36e minute sur un but de Füllkrug. Petite erreur de la défense parisienne qui était mal alignée. C'est notre capitaine Marquinhos qui couvre l'attaquant allemand. Sur une partie plutôt maîtrisée du Paris Saint-Germain. Donc écoutez, la deuxième mi-temps vient de commencer. On va voir comment nos petits Parisiens vont se débrouiller. Dommage qu'ils aient pris ce but, un très beau but. Et à noter que Hernandez est sorti. Alors c'est sûrement Lucas moins Hernandez. Grave, Lucas Hernandez, moins grave que ça n'en a l'air. Mais on a eu très peur sur ses croisés, hein, sur une blessure au genou. Écoutez, on va laisser les Parisiens attaqué. Je crois que à la mi-temps, l'entraîneur a dû remettre du plomb dans la tête de nos petits Parisiens.
On imagine.
Et puis ça n'est pas une grande équipe de Dortmund qu'on rencontre aujourd'hui, donc il reste encore 45 minutes.
Voilà, 40,
on y croit.
47e minute de jeu, tout reste possible. On vous
exactement.
Vient évidemment informé tout au long de la soirée sur Europe 1. Et puis l'un des auteurs américains préférés des Français nous a quittés. Paul Auster est décédé à l'âge de 77 ans. Il était atteint d'un cancer du poumon. Il a marqué les lecteurs du monde entier avec des romans comme Moon Palace, sorti en 1989, ou encore Le Léviathan en 1992. Nicolas Caro, tout au long de sa vie, Paul Auster a puisé son inspiration dans la ville où il est d'ailleurs décédé, à savoir New York.
On peut même dire que New York était le personnage principal dans quasiment chacun de ses romans. Il explose d'ailleurs sur la scène littéraire grâce à sa trilogie new-yorkaise, trois romans, Cité de verre, Revenant et La chambre dérobée, tous réunis en 87 dans un seul volume. New York est le terrain de jeu, le labyrinthe dans lequel il perd ses personnages en quête d'identité. On lui doit une quarantaine de livres. À chaque fois, il redécouvrait son art.
Chaque livre, c'est un nouveau commencement pour moi. Je n'ai jamais écrit ce livre avant. Il faut que j'apprends comment écrire ce livre en l'écrivant. Ah, ça, c'est la beauté de toute l'entreprise.
On entend son très bon français. La France était son deuxième pays, disait-il. La fin de sa vie est marquée par des épreuves. En 2022, son fils est inculpé d'homicide involontaire. Sa fille de 10 mois s'était intoxiquée avec de l'héroïne. Et ce même fils est mort quelques jours plus tard d'une overdose. Le dernier roman paru de Paul Auster, Baumgartner, a été publié en mars.
Nicolas Caro, spécialiste littéraire d'Europe 1. On vous retrouve, Nicolas, d'ailleurs, dimanche prochain à 19h dans votre émission La Voix est libre. Vous écoutez Europe 1, il est 22h11. Place maintenant à l'invité politique d'Europe 1 Nuit.
Europe 1.
L'invité politique d'Europe 1 Nuit, c'est la députée Renaissance de l'Ain et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, Olga Givernet. Bonsoir, madame la députée.
Bonsoir.
Alors, selon les autorités, 121 000 personnes ont défilé dans toute la France à l'occasion des traditionnelles manifestations du 1er mai. Mais à Saint-Etienne, la tête de liste PS, place publique, Raphaël Glucksmann, n'a pas pu rejoindre le cortège, invectivé par des dizaines de manifestants, ciblés par des jets de peinture et victimes d'insultes antisionistes. Qu'est-ce qu'un tel incident dit de l'état de notre société?
Ouais, écoutez, déjà le 1er mai, c'est une tradition, vous l'avez dit, de manifestation. Et je suis heureuse de voir qu'en fait, elles se sont plutôt bien passées. Hein. J'apporte tout mon soutien aux forces de l'ordre qui ont été visées. Mais,
13 membres des forces de l'ordre effectivement blessés à Paris.
Donc c'est vrai que quand on voit que finalement des politiques viennent se mettre en scène et voire se prennent à partie, c'est pas forcément tout à fait l'image que l'on voudrait voir. On voudrait plutôt faire passer un message d'apaisement, de
Raphaël
déambulation.
Raphaël Glucksmann est venu se mettre
donc,
en scène
Alors écoutez, il a voulu se joindre à la manifestation, ce qu'il a tout à fait le droit. Hein. C'est donc sa complète liberté de pouvoir circuler et déambuler. Malheureusement, il a été pris à partie par des militants politiques sur apparemment des questions politiques. Et là, je trouve que c'est dommage parce que c'est une journée qui est dédiée au travail sur la question sociale. C'est là où on doit se concentrer.
Donc il
n'aurait
pas dû être là, Raphaël Glucksmann.
Il aurait pu être là. Ce qui est dommage, c'est que le sujet ait pris cette ampleur et qu'il soit d'ailleurs sur une autre thématique que la question du travail.
Et comment donc, vous réagissez aux invectives qui ont été lancé sur son supposé sionisme, notamment, qui a été brandi.
Non, je trouve que l'agression vis-à-vis des élus, de toute manière, est tout à fait à condamner. Cette violence ne doit pas avoir lieu. Maintenant, il faut prendre part par rapport au débat sur la question palestinienne et israélo-palestinienne. Le fait de prendre de la hauteur, de savoir que pour nous, en tout cas à Renaissance et dans la majorité, la solution viendra sur une solution à deux États. Nous l'avons toujours dit. Après, que les autres, nos opposants aient des positions qui paraissent floues, et puis qu'au sein de la gauche, il y ait des tensions, ça leur appartient. Mais ça démontre quand même que le discours n'est pas clair. On le voit bien au Parlement européen, quand Raphaël Glucksmann ne vote pas avec son groupe socialiste sur, par exemple, le pacte asile et migration, eh bien, la clarté n'est pas au rendez-vous. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment avoir un discours de clarté, notamment dans cette actualité d'élections européennes vis-à-vis de nos électeurs, et la majorité présentera sa liste très bientôt autour de Valérie Ayer et son programme pour Besoin d'Europe.
Raphaël Glucksmann voit une forme d'antisémitisme dans l'agression, c'est un avis que vous partagez ?
Alors moi, je pense qu'il faut faire très attention, évidemment, à éviter toute acte et violence, et surtout dans le cadre de l'antisémitisme. On sait qu'il y a une augmentation des violences, et il faut faire très attention. Maintenant, ils ont cette prise à partie. Je crois que s'ils ont des dissensions politiques, eh bien, ils doivent les régler entre eux et éviter de donner ce spectacle qui pourrait justifier finalement d'autres actes qui sont répréhensibles.
En tout cas, après l'incident, Raphaël Glucksmann a expliqué que certains de ses agresseurs avait des drapeaux de la France insoumise, et il a déclaré, je cite, « Ces gens-là ne sont pas des démocrates ». Vous partagez son avis, les membres de la France insoumise ne sont pas des démocrates?
Vous savez, on a eu un gros débat sur la question de l'arc républicain, hein, vous le savez, en hémicycle à l'Assemblée nationale, lorsqu'on
est
des extrêmes gauches et l'extrême droite, oui, en fait, on les, pour moi, en fait, il faut rester dans l'arc républicain, elle va de la gauche à la droite, et les extrêmes en sont exclus. Ça se démontre encore aujourd'hui.
Olga Givernet, je rappelle que vous êtes députée Renaissance de l'Ain et vous êtes l'invitée d'Europe 1 Nuit ce soir. Plus largement, à l'occasion de ces manifestations du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, on le rappelle, on a assez peu entendu finalement de revendications sociales. On a surtout vu des slogans pro-Gaza, des drapeaux palestiniens. Vous regrettez que le sens du 1er mai ait été quelque peu détourné?
Je crois que le 1er mai doit faire avec l'actualité qu'elle est aujourd'hui. Cette année, eh bien, il y avait certains sujets. L'année dernière, on était plutôt sur les retraites et je crois que là, pour le coup, on était vraiment dans le sujet. Donc il faut garder ce 1er mai comme étant une tradition et puis de se rappeler que si les droits sociaux se sont faits par ces mobilisations et ces manifestations. On a toujours des sujets sur la table, il faut pouvoir les faire avancer, mais on se rend compte évidemment qu'on a une palette aujourd'hui de sujets qui viennent parfois brouiller le message politique. Donc non, je crois qu'il n'y a pas à regretter et on peut quand même penser qu'avoir une journée où ça se passe bien et que bien on puisse avoir des déambulations, des personnes qui peuvent aller en toute sérénité participer aux manifestations, c'est important.
C'est peut-être un signe d'importation du conflit au Proche-Orient aussi, de voir autant de drapeaux palestiniens dans les rues.
Oui, on ne veut pas cette importation du conflit, mais c'est aussi un signe peut-être aussi de la montée de la violence parfois qu'on peut entendre et qui peut essayer de s'exprimer lorsqu'il y a des manifestations comme ça. On a identifié des groupes de Black Bloc qui ont pu se manifester pendant cette journée. Il y a la sécurité, les forces de l'ordre étaient là et ont pu l'encadrer. Donc je pense qu'il faut s'accrocher à cet objectif et qu'on puisse le faire de manière collective.
1er mai marqué aussi par la campagne des élections européennes. Évidemment, le scrutin approche, c'est le 9 juin prochain. Jordan Bardella et Marine Le Pen étaient à Perpignan aujourd'hui pour un meeting. En vue donc des élections, la liste RN est donnée à plus de 30% d'intention de vote. Dans les sondages, celle de Renaissance, toujours autour de 16%. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça décolle de votre côté? Est-ce qu'il faut que les poids lourds s'investissent davantage?
Alors les poids lourds, comme vous le dites, si c'est les ministres et toutes les personnalités autour de notre campagne, oui, ils s'investissent. Moi, j'étais encore réunion publique vendredi soir dans l'Ain avec Sylvie Retailleau, la ministre de la Recherche, avec nous. Donc oui, on doit aller sur le terrain, parler aux gens, les sensibiliser déjà qu'il y a une élection pour 70% des personnes, ils n'ont pas encore intégré.
Mais où sont les figures? Où sont les Gérald Darmanin, les Bruno Le Maire, les poids lourds? Où sont-ils? On les voit assez peu sur cette question.
On a une tête de liste, c'est Valérie Ayé. Si vous le voulez, lui coller des tuteurs, parce qu'en fait, on pense qu'elle n'est pas capable. Moi, je pense que c'est une erreur. Valérie Ayé est parlementaire au niveau européen. Elle est la quatrième personnalité la plus influente. Elle a travaillé, elle a des messages à faire porter. Donc ça c'est vu. Évidemment, il y a une montée de l'extrême droite que nous pouvons dénoncer. Carrément, parce que quand on voit aujourd'hui que le 1er mai, qu'est la fête de Jeanne d'Arc, hein, je vous rappelle en fait que le Rassemblement National, dans son héritage du Front National, fête cette fête, et quand il nie l'héritage du Front National, eh bien on voit aujourd'hui qu'il s'exprime de nouveau. Donc qu'il veuille transformer en plus cette élection pour une élection nationale, c'est une erreur. Jordan Bardella, en pensant vouloir jouer dans la cour des grands, en ne voulant parler qu'à des ministres ou des des anciens ministres, bah, ça commence à se voir que le faux semblant ne peut pas tenir longtemps.
Gabriel Attal rentre dans son jeu puisqu'il a accepté le débat.
Mais je crois que Gabriel Attal a besoin aussi de se mobiliser. Il est le chef de la majorité, donc c'est tout à fait engageant et donc il doit se mobiliser. Moi, je suis heureuse que demain il puisse y avoir ce débat entre Valérie Hayé et Jordan Bardella. C'est les deux premiers. Ils doivent pouvoir exposer librement leur point de vue et surtout leur différenciation.
Olga Givernet, merci beaucoup d'avoir été l'invitée politique d'Europe 1 Nuit. Je rappelle que vous êtes députée Renaissance de l'Ain et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. La météo désormais avec vous, Marlène Duret. Toujours 19 départements en vigilance orange pour pluie, inondation et pour des risques d'orage. Et demain, le temps restera perturbé.
Oui, il faut dire que les pluies auront du mal à s'évacuer. On va retrouver donc demain un ciel bien couvert avec encore pas mal de pluie sur une moitié est du pays en englobant l'Île-de-France, la Normandie aussi, l'Auvergne, le Languedoc, mais sans le Roussillon, avec un risque d'orage très limité. Hein. Vraiment, ce sera au bord des frontières du Nord entre les Ardennes et la Moselle, peut-être aussi un petit peu à l'ouest de la Corse. Et puis plus on ira vers l'ouest, donc plus on se rapprochera de la façade atlantique et plus nous aurons moins de pluie, déjà un temps plus sec, et aussi des éclaircies qui feront leur retour progressif. Quant aux températures, c'est la baisse généralisée, avec au meilleur de la journée 11 degrés attendus à Bourg-en-Bresse, 12 à Dijon, 13 à Épinal ainsi qu'à Rouen, il fera 14 degrés à Paris, à Marseille, pas plus de 16 sur un quart sud-ouest, 16 aussi du côté de Nancy, 17 à Rennes ainsi qu'à Lille et jusqu'à 19 à Strasbourg et Bastia. Grosse dégringolade des températures donc dans le nord-est demain après-midi.
Merci beaucoup. Coucou Marlène Duret, je rappelle que 19 départements sont toujours en vigilance orange pour pluie, inondation et pour des risques d'orage. D'ailleurs, l'orage est arrivé sur la région parisienne. Vous écoutez Europe 1, il est 22h20. Place maintenant à la libre antenne jusqu'à 1h du matin, comme tous les soirs, avec Olivier Delacroix. Bonsoir à vous.
Bonsoir mon cher Maël, comment allez-vous?
Très bien, je sais que c'est un soir assez stressant pour vous, forcément, le Paris Saint-Germain joue.
Oui, bah écoutez, ça n'est que du football.
Bien sûr, hein. Bien sûr.
Il y aura un retour, quoi qu'il arrive, il y aura un retour à Paris, et quoi qu'il arrive, vous savez, au Parc des Princes, ce PSG-là a du mal à être battu. Donc, pour l'instant, le PSG fait un très bon match. Je suis assez satisfait. Donc, on va voir. Il reste, bien évidemment, beaucoup de temps encore, puisqu'il reste pratiquement 32 minutes. Donc, si ça reste là, ce sera un bon résultat pour le PSG, hein, quoi qu'il arrive.
Je le rappelle pour ceux qui suivent le foot et qui nous écoutent en ce moment, 58 minutes de jeu entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, 1-0 pour Dortmund.
Exactement, et sur une erreur de défense, comme quoi à ce niveau-là, on voit combien chaque petit détail compte. Bon, voilà, pour l'instant, le PSG fait vraiment un très bon match. Et on vient de tirer deux fois sur les poteaux quand même, hein, je vous le signale. Mbappé a tiré sur le poteau et Geoffroy Hakimi a tiré ensuite Achraf sur le poteau. Achraf, pardon.
Geoffroy Hakimi, c'est ça. Je
l'appelais Geoffroy ?
Oui.
Moi, ça lui irait bien, marqué. Hein ? Geoffroy. Alors, Hakimi.
Non, mais je pense que vous êtes le premier à appeler Hakimi Geoffroy. Mais c'est bien.
J'ai dit Geoffroy. Oh là là, attention là.
Voilà, une offensive pour Dortmund.
Ouh là 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 là. Ça a été très très chaud encore là. C'est pour ça. En fait, cette équipe, c'est une espèce de diesel. Ils sont lourds et puis d'un seul coup, ils vous font des accélérations. On ne sait pas. Bon, voilà. Je les vois jouer souvent, hein, Dortmund. C'est une très bonne équipe, hein, ceci dit. Donc,
j'espère vous annoncer une bonne nouvelle à 23h.
Écoutez, vous nous avez toujours porté chance.
C'est vrai.
Donc, vous revenez nous voir à 23h, mon cher Maël. Et bravo pour votre ITV encore.
Merci,
fort brillante.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
22h23 et je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et c'est la libre antenne d'Europe 1. Donc, vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Nous sommes là pour vous écouter et bien évidemment, vous le savez, cette libre antenne, c'est vous qui la faites, c'est vous qui êtes au cœur de ces témoignages et vous qui parlez au téléphone et vous qui écoutez, vous faites aussi cette libre antenne car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter cette libre antenne. Je le disais hier soir à notre premier témoin, Florian, qui s'étonnait que vous soyez 220 000 à Florent, pardon, que vous soyez 220 000 à écouter cette libre antenne chaque soir, et oui, et vous êtes près de 700 000 à passer durant ces 3 heures. Rendez-vous compte, merci pour votre fidélité. Le numéro de téléphone, je vous l'ai donné, vous pouvez nous écrire vos SMS au 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous écrivez vos SMS aussi sur la page Facebook de la libre antenne qui aujourd'hui est un jour incroyable puisque en même temps que la demi-finale de Champions League, vous êtes vous-même membre de cette communauté en Champions League puisque nous accueillons 10 nouveaux membres aujourd'hui et nous sommes maintenant 20 002 membres sur cette communauté de la libre antenne. Je dois vous dire combien je suis heureux ce soir et combien l'équipe est heureuse ce soir. Florian, Julia et Laurent et moi-même bien évidemment et Valérie Darmon et toute son équipe de d'accueillir autant de monde sur cette communauté numérique de la libre antenne. 20 002 membres, rendez-vous compte. Alors sur cette page Facebook, vous le savez, vous pouvez aussi nous écrire, hein, vous pouvez aussi nous écrire en privé à Florian et à Julia. Vous nous écrivez sur cette page Facebook très facilement. Vous nous envoyez vos mails à libreantenne@europe1.fr et puis vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse postale d'Europe 1 ici à la Libre Antenne, Olivier Delacroix ou Valérie Darmon, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, votre libre antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Myriam sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Myriam et d'où nous appelez-vous?
Alors j'ai 30 ans le 27 mai. Oui. Et je vous appelle depuis la Corse.
Alors nous avons deux points communs, ma chère Myriam. Le premier, c'est que vous êtes Gémeaux.
Ah.
Non.
Tout à fait, oui.
Tout à fait. Et le deuxième, vous êtes Corse ou vous êtes native de la Corse ou...
Non, je suis Suisse. J'ai découvert la Corse il y a quelques années lors de vacances. Et oui. C'était le coup de cœur.
D'accord.
Et j'y suis retournée de nombreuses fois depuis. Et un jour, j'ai sauté le pas il y a 2 ans et j'ai déménagé à Ajaccio.
D'accord. Alors bon, je pensais que vous étiez corse, donc je suis à moitié corse par mon papa. Donc voilà. Et j'embrasse tous les Corses qui nous écoutent, puisqu'ils sont nombreuses et nombreux à nous écouter, comme partout en France d'ailleurs. Mais bien évidemment, nous sommes très écoutés en Corse. Nous avons souvent des personnes qui nous appellent de là-bas. Comme vous ce soir, Myriam, vous avez publié un livre en 2019, Itinéraire d'une survivante, aux éditions Favre. Survivante. Alors dites-moi tout.
Alors, j'ai une enfance extrêmement compliquée dans une famille où je me sentais incomprise et totalement en décalage. Enfin, c'était pour moi clairement de la maltraitance par rapport à ce que je vivais avec mes parents. Je ne me sentais pas respectée en tant qu'être humain. Et je faisais face en parallèle à une maladie grave qui atteignait mon corps. Et mes parents pensaient que j'étais possédée, en fait. Et qu'il fallait résoudre ma maladie par un exorcisme.
Possédée, parce que quelle était cette maladie, Myriam?
Donc j'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'est une maladie qui touche le collagène. Le collagène, c'est la protéine qui donne la résistance dans les organes du corps.
Oui.
Et chez moi, ça se traduit par des symptômes, on va dire, entre guillemets, classiques de la maladie, donc une hyperlaxité articulaire, une fragilité cutanée, mais j'avais également d'autres symptômes qui sont un peu moins fréquents, mais plutôt grave, avec notamment une malformation cardiaque et également d'autres atteintes, par exemple digestives.
D'accord.
Et notamment la malformation cardiaque a nécessité une opération à cœur ouvert suivie d'une opération en urgence. D'accord. En 2006.
Et vos parents vous croient possédés, c'est tout de même incroyable. Ils ne vous montrent pas un médecin, ils ne font rien de tout ça.
Donc, en fait, il savait depuis longtemps que j'avais cette... Il suspectait, on va dire, depuis longtemps que j'avais cette maladie, étant donné que mon père est médecin et qu'il était lui-même atteint de la maladie. Mm-hmm. Mais je n'avais jamais été consultée par rapport à cela. Pour eux, ça se résumait à une sorte de fragilité un peu plus marquée par rapport à la normalité, entre guillemets. Et c'est le jour où j'ai commencé à énormément boiter et qu'il fallait, en fait, me faire faire des semelles orthopédiques. Pour obtenir le remboursement de ces semelles orthopédiques, il fallait que le diagnostic soit posé par un médecin spécialisé. Et c'est dans cette consultation au CHU qu'on s'est rendu compte que la maladie était beaucoup plus grave que ce qui était prévu. Mais suite à cela, mes parents ont fait un énorme déni. Donc bien sûr, je me rendais moi-même par la suite aux consultations pour continuer le suivi. Mais eux appelaient les parents de mes amis pour leur annoncer que j'étais folle, qu'il fallait pas me croire, que j'étais dangereuse. Ils demandaient au prêtre qui voulait bien m'exorciser, ils me faisaient voir des psychologues pour trouver de quelle maladie je souffrais. Ils voulaient bien croire que j'avais n'importe quelle maladie mentale, mais pas pour eux, cette maladie physique était entre guillemets présente dans une forme frustre où effectivement j'avais des bleus. Mais par exemple, mon opération du cœur pour eux était une demande de ma part envers les médecins pour un manque d'attention, enfin pour une demande d'attention en fait.
Ce qui faisait de vos parents d'emblée une famille maltraitante, on est d'accord?
Oui, alors malheureusement ça ne s'arrêtait de loin pas à ce cadre-là, mais c'est vrai que quand je vivais chez eux, je ne m'en rendais pas forcément compte. Par la suite, quand j'ai pu sortir de ce cadre, j'ai vraiment pris conscience qu'effectivement c'était de la maltraitance. Et disons que j'ai été brimée dans ma personnalité humaine et dans tous les points de ma vie. Enfin, j'avais vraiment l'impression d'être presque emprisonnée, étant donné que toute ma vie était régie pour répondre à leurs besoins en fait, et à leurs désirs, que ce soit mes activités, mes amitiés, mon temps libre.
Vous êtes dans un milieu aisé en plus, hein. Je crois savoir que vous êtes issu d'un milieu plutôt bourgeois en fait, avec un père médecin.
Oui, tout à fait. Donc l'aspect financier n'était vraiment pas problématique dans la famille, mais au contraire, il fallait toujours montrer qu'on était parfait et qu'on venait d'une bonne éducation, donc on pouvait pas se mélanger entre guillemets au commun des mortels. Il fallait qu'on montre qu'on venait nous d'une bonne famille, contrairement aux autres personnes qui étaient presque perçues en dessous. Et bien sûr, j'étais tout à fait contre ce système de règles et cette perte de contrôle que je ressentais chez moi amenait à des punitions qui étaient démesurées, comme des enfermements, des privations de nourriture, des privations même par la suite de rentrer chez moi pour dormir. Donc je devais trouver le soir lequel de mes camarades de classe voulait bien m'héberger pour la nuit. Mmh.
Il fallait que vous soyez parfait, hein, que vous jouiez tous un instrument de musique. Ce qui, vos parents, c'était le paraître, hein, qui les intéressait en fait.
Oui, c'était le paraître et le paraître, on va dire, par rapport à la société. Mais ils sont très religieux. C'est également le paraître par rapport à Dieu. Donc, on avait un nombre incalculable de prières à faire par jour et nos dimanches étaient consacrés à Dieu avec des longs chapelets, des messes, des réunions avec d'autres familles catholiques. On allait voir des prêtres, on faisait des cons religieux, mais du moment que j'avais des amis par exemple qui n'étaient pas catholiques ou qu'on regardait un film ou qu'on écoutait une musique qui n'était pas de la musique d'église ou un film d'église, c'était considéré comme satanique en fait. Et notamment
considéré comme satanique.
Par exemple, pour eux, Harry Potter est satanique.
D'accord.
Voilà.
D'où sortent-ils que Harry Potter est satanique? Parce qu'il y a beaucoup de magie dedans, c'est ça?
Oui, parce que c'est pas la parole de Dieu.
Parce que ça n'est pas la parole de Dieu. D'accord.
Oui.
C'est une manière de voir les choses quand même.
Ouais. Et par exemple, si on n'était pas premier en classe, on était puni parce que, en fait, soit on est parfait, soit on est nul. C'est ça. Ah, c'était ça. Et ma mère, elle me disait souvent, t'es que de la vermine, et la vermine, soit ça se rend utile, soit ça s'élimine.
Alors, qu'appelait-elle la vermine ? Qu'appelait-elle la vermine ?
Pour moi, la vermine, c'est moi, c'est le bas peuple, c'est les gens qui parfois trébuchent. Et en fait, par rapport à ma maladie, je sortais totalement en fait de ce schéma de perfection. Je détruisais tous ces idéaux qu'elle s'était projetés sur moi, et elle me détestait pour ça.
Elle vous détestait par rapport pour ça. D'accord.
Ouais, je pense par rapport également. Enfin, je sais pas si elle me détestait, mais je pense qu'en tout cas, elle était perdue par rapport à ça, parce que ça ne correspondait pas à ce qu'elle s'était imaginé. Je verrais plus aujourd'hui. Avant, je le percevais comme de la haine, mais je pense qu'aujourd'hui, je le verrais plus vraiment comme peut-être une pathologie. Mais oui, en fait, si elle perdait le contrôle sur moi, elle devenait méchante.
Méchante, donc elle faisait quoi quand elle était méchante ? Elle vous frappait ? Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Elle me frappait, elle m'enfermait dans les petites toilettes qui faisaient peut-être 2 mètres carrés. Ou bien ça se traduisait par plein de choses, hein, mais par exemple, elle avait toujours besoin de montrer qu'elle était supérieure à moi, donc il fallait dans la rue que je marche derrière elle, que je lui passe jamais devant. Elle voulait par exemple que dans la sorte de... On vivait dans une maison avec une cour extérieure, dans un quartier familial, on va dire... même un quartier presque bourgeois, et il fallait qu'elle souhaitait que je garde les volets fermés, parce que si quelqu'un de l'extérieur me voyait dans la maison, il viendrait me violer, en fait.
Il viendrait vous violer, oui, donc elle était totalement paranoïaque, votre mère, en fait. Elle était totalement... Oui. C'est elle qui était possédée,
elle
en fait.
Elle avait des peurs... non, elle n'est pas possédée.
Non,
mais elle a reçu une éducation qui lui a donné des peurs et des angoisses démesurées.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Elle était possédée par des idées préconçues, elle était possédée par une paranoïa, elle était possédée par plein de choses, vous voyez ? Et c'est ça qui, de mon point de vue, faisait qu'elle était totalement à côté de la plaque vous concernant. Et en plus de ça, elle ne vous soignait pas. Donc, ils vous ont mis en danger, ces gens-là.
Oui. Ah oui, et je dirais qu'ils m'ont mis surtout en danger au niveau de ma santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, j'en parle avec peut-être de la clairvoyance.
Oui.
En tout cas, c'est comme ça que je le perçois.
Avec du recul.
Avec du recul, mais c'est quand je le vivais sur le moment que j'étais enfant, que je n'avais pas, ou adolescente, et que je n'avais pas eu des repères extérieurs et un regard extérieur, je pensais vraiment que c'était moi qui étais possédée, que c'était... j'avais en tout cas ce doute que peut-être que j'avais entendu des voix, que les médecins ne m'avaient jamais dit que j'allais devoir être opérée, que j'avais inventé ça. Je ne savais plus reconnaître le vrai du faux. Et là, je pense que plus que le fait de ne pas être soignée physiquement, je me suis perdue mentalement. Enfin, à un moment, je pense que j'aurais vraiment pu me perdre, presque devenir folle, réellement, du fait de cette perte de repères que j'avais.
C'est-à-dire, en fait, vous auriez pu vous perdre à force d'être maltraitée, en fait. C'est ce que vous voulez dire.
Mais je ne savais plus déceler le vrai du faux. Et quand mes parents disaient que j'étais une menteuse, que c'est pas vrai, que j'avais pas de maladie, mais je me disais que peut-être qu'ils avaient raison et que ce que j'avais entendu que les médecins m'avaient dit à l'hôpital était en fait une invention de ma part.
Je suis ta mère, je ne suis pas ton amie, disait-elle.
Oui.
C'est très curieux, en fait. Il n'y avait pas d'amour entre vous, en fait, vous pensez ?
Non, je pense pas. Je pense que pour elle, c'était une marche à suivre. Un peu.
Vous disiez souvent cette phrase, tu n'es qu'une vermine, et la vermine, soit ça s'élimine, soit ça se rend utile, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. En fait, comment pouvait-elle parler à sa fille comme ça ? D'où ça venait, ça, la vermine ? D'ailleurs, elle sortait ça d'où, à votre avis ?
Alors, on vivait dans la maison, en fait, de mes grands-parents maternels. Eux étaient au premier étage, on était au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'eux-mêmes étaient très durs et maltraitants avec ma mère et très intrusifs. Et je pense qu'elle reproduisait un schéma qu'elle avait reçu, en fait, simplement. Et peut-être une pression qu'elle recevait encore de la part de ses parents à elle, étant donné qu'elle ne s'était jamais émancipée de sa propre famille.
Vous dites que le moindre détail de votre vie était régi par votre mère, que vous n'aviez à aucun moment le droit d'être vous-même avec vos propres aspirations et vos propres rêves. Ça devait être très dur quand même, ça.
Oui, mais en fait, je vous le dis honnêtement, et c'est très dur, mais je pense qu'elle a tué 17 années de ma vie. Elle m'a refusé une enfance, elle m'a refusé une adolescence pour que je corresponde à ce qu'elle s'était imaginé que j'allais devenir. C'est-à-dire, par exemple, j'étais pas respectée par rapport à mes sensibilités ou mes convictions. Je suis sensible aux animaux. Elle mettait son manteau en fourrure, elle m'obligeait à l'embrasser.
Mmh. Alors que moi, elle se moquait de votre amour pour les animaux en plus, hein, je crois.
Voilà, alors que moi, par exemple, j'avais reçu un autocollant du refuge animalier que j'avais visité avec les scouts. On voyait un manteau de fourrure et tout le sang qui coulait du manteau de fourrure et ça m'avait vraiment choquée. Oui. Et elle, donc, elle portait son manteau de fourrure. Elle disait, maintenant, tu viens m'embrasser. C'est comme ça, c'est pas autrement, sinon t'es puni.
Mais elle était tout de même un peu sadique quand même avec vous, au-delà de ses croyances et de ses paranoïas, en fait.
Je sais, j'ai pas assez de. En fait, j'avais pas assez de connaissances de la vie à ce moment-là pour vraiment déterminer si c'était du sadisme ou pas. Mais c'était horrible à vivre et c'était une angoisse permanente. En fait, je sais honnêtement, je vous dis aujourd'hui, je sais pas comment j'ai survécu à mon enfance. J'ai eu plein de fois envie de me suicider, mais j'ai jamais abandonné. Mais pour moi, tout ce que je vivais n'avait en fait aucun sens.
Vraiment, vous n'avez jamais fait de tentative de suicide d'ailleurs ?
Non, mais j'y pensais. En fait, j'étais partie dans un fantasme un peu qui m'a sauvée. C'est que je me disais que de toute façon, si le pire m'arrivait et que j'étais vraiment blessée, ensanglantée ou je ne sais quoi, j'avais rêvé qu'une meute de loups allait venir me sauver, qu'ils allaient m'emmener dans la forêt et s'occuper de moi. Et c'était ce fantasme de petite fille qui me maintenait en vie, qui me disait de ne pas lâcher, en fait.
Alors, ce sont les médecins qui, les premiers, vont s'inquiéter de votre situation, Myriam. Racontez-moi cela.
Ils ont été très étonnés des réactions de mes parents. Notamment, j'étais allée consulter un médecin à Paris, également à Ghent, en Belgique, par rapport à ma maladie. Et mes parents avaient fait en sorte que ni mes médecins, ni moi ne puissions récupérer les rapports de ces consultations médicales. Et ça, également, le fait que les parents ne m'accompagnent pas aux consultations, qu'ils disaient toujours « mais c'est pas grave », et qu'ils ne se rendaient pas du tout compte de la réalité, ont mis la puce à l'oreille à mes médecins et ils ont commencé à creuser de ce côté-là, oui. Poser des questions et m'ont envoyé ensuite dans un service spécialisé du CHU qui s'occupe des suspicions de maltraitance, en fait.
C'est là, en fait... Oui, ouais. Pardon, allez-y, je vous laisse continuer, pardon.
Et ensuite, c'est ce service du CHU qui m'a envoyé à la protection des mineurs. Et par la suite, j'ai pu bénéficier d'une psychothérapie dans un service justement spécialisé dans les maltraitances intrafamiliales.
Mais est-ce que finalement, votre mère et votre père n'ont pas été inquiétés par la justice pour maltraitance ?
Alors, la protection des mineurs m'a dit que j'avais cette possibilité-là,
oui.
De porter plainte et d'obtenir en fait des dommages et intérêts pour maltraitance. Et je leur disais, mais je vois pas l'intérêt en fait de recevoir des sous de la part de mes parents alors que ce qui manquait c'était de l'amour, c'était pas de l'argent. Et là ils me disaient, enfin ils essayaient de m'expliquer que c'était pas tellement l'aspect financier, c'était plutôt la reconnaissance de ce que j'avais vécu, étant donné que mes parents même aujourd'hui, continue à penser que j'aurais pas eu besoin d'être opérée du cœur, que c'était moi qui ai convaincu les médecins que j'avais besoin d'être opérée, parce que c'est tellement agréable, voyez-vous, de...
C'est ce qui est fou, c'est que votre père était... Oui, ce qui est hallucinant, c'est que votre père était atteint du même mal que vous, et que malgré ça, ils étaient dans un déni total concernant votre maladie.
Oui, après, mon père n'a pas de malformation cardiaque.
Oui.
Mais il n'a pas subi d'opération plus jeune, mais en fait, c'est de la génétique, donc on sait qu'avec la même mutation génétique, il peut y avoir des interactions avec d'autres gènes et faire que la maladie, en fait, se présente différemment chez plusieurs individus alors qu'ils ont la même mutation. Par exemple, quelqu'un peut avoir la maladie sévèrement, quelqu'un d'autre peut avoir la maladie plus légèrement et avec plus ou moins d'atteinte. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre que mon père, il a pourtant des symptômes hein, qui sont quand même marqués, mais qui sont quand même moins graves que ce que j'ai pu vivre moi et que ce que j'ai moi actuellement.
Plutôt que de vous soigner, vos parents vous disaient que vous étiez possédé par un démon et voulaient vous exorciser. Votre mère affirme aux parents de ses amis qu'elle est que vous êtes mythomane et dangereuse. C'est, vous voyez, enfin moi je pense que votre mère souffrait d'un problème psychique. Hein. Je pense que c'est elle qui aurait dû être soignée psychiquement. Elle avait sans doute reçu une éducation assez stricte et très religieuse, mais toutes ces réflexions vis-à-vis de vous laissent apparaître quand même un dérangement psychique. Avec du recul, qu'en pensez-vous ?
J'en suis persuadée.
Oui, d'accord.
J'en suis persuadée, mais je n'ai pas les qualifications nécessaires pour poser un diagnostic. Et j'en suis persuadée. Enfin, je ne vois pas de... À part, je ne veux pas croire à de la méchanceté. Enfin, j'essaye et j'espère ne pas croire à de la méchanceté pure et dure. Je pense vraiment que c'était quelqu'un avec une maladie psychique et qui était totalement perdu. Mmh.
Permettez-moi de penser que lorsqu'on traite sa fille de vermine, il y a quand même un fond de méchanceté dans tout cela, même si tout cela est guidé par un psychisme défaillant. Il y a quand même chez votre mère... quelque chose d'assez agressif vis-à-vis de vous, et elle disait que vous étiez méchante et dangereuse. Vous voyez, c'était quand même en permanence des réflexions vous concernant très curieuses, je trouve. Enfin bon.
Et surtout, tout était caché. C'est-à-dire qu'ils allaient appeler les parents de mes amis, j'allais pas en être informée, par exemple, pour leur prévenir qu'il fallait plus laisser leurs enfants jouer avec moi parce que j'étais malsaine. Juste pour citer un exemple, où ils avaient écrit au directeur du lycée pour lui dire que j'étais extrêmement dangereuse, alors que je n'étais pas informée de ça. Enfin, voilà. Ouais.
Il y a dans tout cela, en plus, les prêtres qui refusent de vous exorciser. Hein. Il y a quand même... C'est ça qui est fou, c'est que vous avez eu affaire à des gens qui étaient censés... comment... Finalement, ce sont les médecins qui font un signalement à la protection de l'enfance ?
Donc, pas exactement. Les médecins m'ont guidé vers le service un peu qui fait l'intermédiaire entre la protection des mineurs et le CHU. Et ensuite, dans ce service intermédiaire, ils m'ont proposé effectivement de me rendre à la protection des mineurs et de dire ce que je vivais, mais eux-mêmes n'ont fait aucune signalisation.
D'accord. Donc, vous êtes placée, en fait, Myriam, comment ça se passe ?
Donc, en fait, la protection des mineurs a convoqué plusieurs fois mes parents pour essayer d'avoir une première réconciliation, on va dire, à l'amiable. Et le fait que mes parents refusaient toute remise en question et niaient leur comportement, en fait, pour eux, leur comportement était tout à fait justifié, était pour mon bien. D'ailleurs, ça me fait penser au livre « C'est pour ton bien » ou quelque chose comme ça, qui a été écrit il y a quelques années. Mais du coup, là, c'est moi-même en fait qui ai été après appelé la police, car la protection des mineurs m'a dit si il continue à proférer des menaces, à te frapper ou à t'enfermer, tu appelles la police en urgence. Mmh. J'ai appelé la police une fois quand j'étais enfermée Non, je crois que je m'étais enfermée moi-même dans les toilettes pour échapper au coup de ma mère. J'avais pu m'enfuir ensuite par la fenêtre de ma chambre en pleurant et me cacher dans les arbres chez les voisins. La police était venue me chercher, m'a emmenée dans une famille d'accueil qui, à ma majorité, m'a ramenée chez mes parents sous prétexte que je n'étais pas assez mature.
Voilà. Il ne voulait plus vous nourrir, il ne voulait plus vous héberger à la fin. Il refusait que vous dormiez à la maison. Pour quelle raison se comportait-il comme ça? Parce qu'il pensait que vous faisiez du cinéma, c'est ça?
Oui. Il me disait toujours que j'étais très bonne en théâtre, que par exemple les douleurs engendrées par ma maladie étaient imaginaires, que ma souffrance était imaginaire. Je venais parfois en pleurant vers eux pour leur dire que je me sentais pas bien. Et en fait, ils rigolaient, ils se moquaient de moi. Et ils disaient, ah, mais t'es bonne en théâtre, t'es marrante. Mais ils partaient vraiment en éclat de rire. Mmh. J'avais aucune reconnaissance de la souffrance que je vivais.
La situation empire et vous allez devoir vous sauver de vous-même. Hein. À 17 ans, vous quittez votre foyer avec l'aide de la police et du service de protection des mineurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement? Ça n'est plus tenable pour vous?
Donc là, c'était déjà avant que j'arrive à la première famille d'accueil que je m'étais enfermée justement dans les toilettes pour échapper au coup de ma mère. Et quand la famille d'accueil m'a ramenée chez mes parents à ma majorité, je suis juste restée quelques heures la nuit. Je suis partie à l'aube avant que tout le monde se réveille. Je m'en souviens, j'étais en plein examen de baccalauréat à mon lycée. Et j'avais ensuite dormi. Ça a été en fait le début de ma vie un peu de bohème que j'ai vécu pendant un an. C'est-à-dire, je dormais chez les gens qui voulaient bien m'héberger, et quand je trouvais personne pour m'héberger, eh bien, je dormais dehors. Et je vivais avec rien, en fait, réellement. Je vivais avec rien. Je voulais des rouleaux de papier toilette dans les toilettes publiques, notamment pour, c'est horrible à dire, hein, mais pour utiliser comme serviette hygiénique, étant donné que j'avais pas l'argent pour m'en acheter. Enfin, je mangeais presque rien. Je n'avais pas le droit à une prise en charge car le salaire de mes parents était trop important. Et au final, il y a eu l'aide sociale qui a menacé mes parents à mes parents de les obliger en fait de subvenir à mes besoins. Et à ce moment-là, mes parents ont pris un avocat contre moi.
Ce qui est fou, c'est que malgré cela, vous dites que vous doutiez de votre légitimité. Qu'entendez-vous par là?
Déjà, je me sentais un fardeau pour tout le monde. J'avais rien donné. J'étais tout le temps dans la demande et je me disais que j'avais même pas le droit de vivre ni d'être heureuse.
D'accord, carrément.
J'avais tout le temps l'impression de déranger, tout le temps.
Tout le temps.
Même chez les gens qui m'accueillaient, j'avais l'impression que j'étais en trou. Et dès que les gens parlaient, par exemple, sans que j'entende ce qu'ils disent...
Oui, vous pensiez qu'ils parlaient de vous.
Oui. Mm-hmm. Oui. Qu'ils allaient dire, ça va pas, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est plus possible.
Comment imaginer le contraire, puisque vous étiez, de toute façon, mal aimée, hein, Myriam, en fait. C'est ça le problème, c'est que vous étiez mal aimée.
Oui, et... j'étais à la merci de tout le monde. J'avais besoin de dormir et de nourriture. Et je me rappelle, par exemple, une fois, une famille m'a hébergée et le fils voulait me violer pratiquement. J'avais dû m'enfuir. Je me rappelle, j'avais pas réussi à dormir la nuit. Je m'étais enfuie dans l'autre chambre. J'étais repartie. J'avais pris mes affaires. J'étais repartie. Enfin, c'était très compliqué. J'étais à la merci de tout le monde. J'avais pas les bases pour savoir qu'en fait, j'ai de la valeur, qu'on doit me respecter, qu'il y a des choses où il faut que je dise non et que je suis pas d'accord. Je savais pas dire non, en fait. On m'avait tellement dit qu'il fallait que je me taise et que j'accepte tout ce que je vivais que j'étais pas armée pour affronter la vie. Ça a été très dur.
Je me doute. Quelle horreur quand même de vivre une jeunesse pareille. Ça faisait de vous, en fait, une jeune fille assez fragile, au final.
Totalement. J'aurais pu tomber vraiment sur des personnes malfaisantes. Voilà, dans une mauvaise spirale. Heureusement, ça n'a pas été le cas, mais ça a été très difficile.
Vous subirez aussi deux opérations à cœur ouvert, encore aujourd'hui.
Je vous interromps.
Oui, allez-y.
J'ai subi une opération à cœur ouvert et la deuxième opération, Donc c'était en urgence pour une tamponnade suite à un épanchement péricardique, mais elle n'était pas encore ouverte, la seconde opération.
Mais vous vous êtes reconstruite à partir de quand, donc, à votre avis, ça commence à partir du moment où vous avez tout quitté, que vous êtes partie de la Suisse?
Non, je ne pense pas qu'il y ait eu un moment fixé. C'est quelque chose qui s'est fait petit à petit. D'abord par le sport. Donc, quand j'ai pu commencer mes études à l'université, par la suite, donc, mes parents avaient pris un avocat contre moi. Et il s'est avéré que... et la protection des mineurs m'a également fourni un avocat. Et on a décidé que si je ne portais pas plainte pour demander des dommages et intérêts, mes parents acceptaient de financer mes études, comme l'exige la loi suisse, jusqu'à mes 25 ans. Et grâce... durant mes études, en fait, j'ai rejoint une équipe de course à pied. Et le sport me faisait énormément de bien par ma maladie, grâce à ma... Enfin, me faisait énormément de bien par rapport à ma maladie. Ça me renforçait, ça diminuait mes douleurs. Et là, d'être dans cette équipe avec un entraîneur très bienveillant et d'être soutenue, c'est là, je pense, que j'ai commencé à me reconstruire. Et par la suite, bien sûr, par mes voyages.
Par vos voyages, parce que vous allez aller au Sri Lanka, hein, ce qui va vous faire énormément de bien, je crois.
Je suis partie, en fait, depuis la Suisse. Donc, j'ai démissionné, j'ai pris mon sac à dos. J'ai été donc en Suisse, on est enregistré dans les communes dans lesquelles on habite. J'ai annoncé comme nouvelle adresse aventurière. Je n'étais enregistrée dans plus aucun pays du monde et je suis partie depuis la Suisse. J'ai levé le pouce à travers 16 pays. Effectivement, je suis arrivée au Sri Lanka 5 mois plus tard.
Donc le séjour que vous faites au Sri Lanka vous a fait extrêmement de bien, je suppose.
Alors, c'est pas vraiment le Sri Lanka en lui-même, c'est plutôt ce que j'ai découvert sur la route. J'ai traversé l'Iran, le Pakistan, la Turquie, etc. Et c'est vraiment à travers toutes ces cultures au bord de la route que j'ai récupéré des petites perles de richesse qui m'ont guidée et qui m'ont appris quelle était la vie et quelle était la valeur de l'amour, même dans la pauvreté, même dans la difficulté. Et je me rendais compte que des familles extrêmement pauvres, oui, qui vivaient par exemple dans des charges, je pense notamment aux intouchables par exemple en Inde, il y avait un amour entre la mère et les enfants que je n'avais pas vécu moi-même. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que ce que j'avais vécu était totalement déplacé. Et j'ai eu un peu cette certitude que j'avais la légitimité de dire que j'avais été maltraitée et mal aimée. C'était toujours un peu un doute que j'avais eu. Je me disais, mais en fait, j'ai pas eu la mâchoire cassée, j'ai été battue, j'ai été enfermée, j'ai été privée de nourriture et de logement, mais je me disais toujours, j'ai pas fini cassée en quatre à l'hôpital. Quelle est ma légitimité à dire que j'ai été maltraitée? Et là, de voir en fait le trou béant qu'il y avait entre le non-amour que moi j'avais reçu et tous ces gens, même pauvres, qui étaient tellement tendres les uns envers les autres et tellement respectueux, ça m'a fait vraiment un énorme choc. Et les philosophies que j'ai apprises au cours de ma route m'ont fait énormément de bien, surtout en Turquie, quand j'étais à Istanbul. Il y a un monsieur qui m'a dit, un poisson qui naît, qui vit, qui grandit et qui meurt, oui, dans un lac paisible où il y a de la nourriture en abondance, une famille aimante. Entre le moment où il est né et le moment où il est mort, il a certes vécu heureux, mais il n'a pas énormément évolué ni énormément appris. Alors qu'un poisson qui vit dans un océan infesté de requins, qui tous les jours doit devenir plus rapide, plus fort et plus intelligent pour survivre, entre le jour où il est né et le jour où il est mort, il a énormément appris, il a développé ses compétences. Et il me disait, au final, quel est le bien? Il me disait, les épreuves sont aussi à quelque part un cadeau, dans le sens où elles permettent d'évoluer. Alors bien sûr, il ne faut pas vivre ce que j'ai vécu pour être heureux et pour être débrouillé dans la vie. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte par la suite que j'avais réussi à transformer cette douleur que j'avais vécue en une force.
Oui, oui.
Et aujourd'hui, je suis... ça a pris énormément de temps, mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit « Ah, t'es moche, ou t'es nul, ou t'es de la merde », je ne sais rien, ça ne me touche plus du tout.
Ça ne vous touche plus du tout, ça c'est super, c'est super.
parce que j'ai appris ma valeur et mon droit en fait d'être sur terre et mon droit de vivre et d'être heureuse. J'ai pas de doute à ce propos. Je me suis vraiment reconstruite.
Et qu'est-ce que vous faites en Corse aujourd'hui?
Je travaille chez Gîtes de France. Donc, c'est de la réservation de gîtes et de chambres d'hôtes.
Oui.
Et surtout, je profite de la vie. J'ai mes amis, je fais de l'apnée. Donc, il faut vous dire qu'avec ma maladie, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de ce que j'ai vécu, j'en sais rien. Mais j'ai réussi, grâce au sport, à développer un peu une force physique que j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir avec ma maladie. Savoir qu'il y a plusieurs personnes atteintes de ma maladie qui sont par exemple en chaise roulante et avec la musculation que j'ai réussi à avoir autour de mes articulations, à bien les protéger, etc. Maintenant, je fais de la boxe. J'ai été à Paris en février pour faire un tournoi international de boxe. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'était le Graal après mes opérations du cœur.
C'est vrai qu'ici,
je vis ma meilleure vie, enfin.
Ben oui, vous avez su vous reconstruire, vous avez su faire face à l'adversité. On va prendre le temps de conclure. Vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques minutes.
Bien sûr.
À tout de suite, Myriam.
À tout de suite.
Bonjour, c'est Pascal Praud sur Europe 1.
Oui, bonjour Pascal.
Ce qui compte, c'est vous.
Je pense que vous êtes la voix de personnes qui n'osent rien dire et qui sont majoritaires quand même dans ce pays.
Il faut se réveiller un petit peu à un moment donné.
Je sors